Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bonjour à tous, bienvenue à l'écoute de Métropolez-vous à l'occasion de ce numéro de rentrée. Très heureux de vous retrouver après la parenthèse de l'été et des vacances. J'espère que les vôtres ont été bonnes et reposantes. La grille normale des programmes de Radio Présence est de retour. Nous reprenons donc le cours de cette émission consacrée à l'actualité métropolitaine, aux grands sujets et aux grands projets de la métropole toulousaine. Cette rentrée marque aussi le vrai début d'un nouveau mandat pour les élus métropolitains. Qui dit nouveau mandat dit nouveaux projets, nouveaux axes forts pour la politique de la métropole. Il n'aura échappé à personne qu'un des sujets principaux de la campagne des municipales et un des premiers motifs de préoccupation des citoyens concerne tout ce qui touche à la protection de l'environnement, aux énergies renouvelables et à la lutte contre le réchauffement climatique. Dans tous ces domaines, la question des transports et déplacements est centrale, notamment celle liée à ce qu'on appelle les nouvelles mobilités. Les déplacements à vélo, les pistes cyclables en font partie et ils soulèvent bien des passions, bien des polémiques depuis quelques temps. J'ai donc souhaité leur dédier ce numéro de rentrée. Nouvelles mobilités, pistes cyclables, relations piétons-cyclistes dans la métropole toulousaine. La guerre du vélo aura-t-elle lieu ? Et c'est tout naturellement Philippe Perrin, nouvel élu à la mairie de Toulouse, conseiller municipal délégué et vice-président Toulouse Métropole en charge du vélo et des nouvelles mobilités que j'ai invité à ce premier numéro de la saison. Bonjour monsieur le vice-président, bienvenue à vous aussi. Je viens de l'indiquer, vous êtes un nouvel élu et un nouvel acteur de la vie politique métropolitaine. Vous êtes également un de ces élus qu'on désigne comme étant issu de la société civile. Et avant de vous engager sur la liste conduite par Jean-Luc Moudinque, vous avez eu une carrière professionnelle qui sort de l'ordinaire. C'est le moins qu'on puisse dire. Pour ceux qui ne savent pas, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que fut cette carrière et où elle vous a mené, très haut, très loin ?
Oui, elle a commencé à la campagne. Je suis un enfant de la campagne, pour le coup un enfant du vélo. Et du bus aussi, de ramassage scolaire qui m'a amené en ville. Et puis, j'ai eu un rêve, qui était le rêve de devenir astronaute. Et j'ai cru en ce rêve. Donc, j'ai intégré les rangs de l'armée de l'air. Je suis devenu pilote de chasse. Donc, je n'ai pas eu une empreinte carbone extraordinaire, on va dire, en début de carrière. Mais je l'ai fait dans le sens du service public. Je crois que c'est quelque chose qui est assez fort chez moi. Et la défense des intérêts de la nation en général. Et naturellement, donc, la chasse m'a amené, enfin, avec beaucoup de chance, parce que dans ces histoires... Dans ces parcours un peu étranges, il faut beaucoup, beaucoup de chance, m'a amené à voir la Terre d'en haut sur une mission spatiale, une navette, la 111e mission d'une navette spatiale américaine, qui était une mission de construction de la station spatiale et qui m'a donné donc l'occasion de sortir 3 fois en scaphandre et de voir la Terre non seulement d'en haut, mais également dans mon petit scaphandre qui était un véhicule autonome, pour finalement revenir de ce vol avec une impression absolument foudroyante et urgente de préserver la planète. C'est vrai de tous les astronautes, mais ce qu'on ressent là-haut, c'est la fragilité de notre monde. Et donc, j'ai décidé de poursuivre ma carrière de pilote. J'ai rejoint donc, les rangs des essais en vol d'Airbus. Mais surtout, j'ai pris mon bâton de pèlerin pour faire des conférences et éveiller les gens aux problèmes du réchauffement climatique. La première conférence sur ce thème, je l'avais fait d'ailleurs à l'ICT, début des années 2000, puisque c'était à l'époque sur la problématique des accords de Kyoto. Et malheureusement, depuis les accords de Kyoto, tous les scénarios les plus pessimistes finalement ont été suivis par l'homme, et nous sommes à un point de rupture où il faut décider ce que nous allons faire de notre destin.
Eh bien, merci de nous avoir ainsi brossé rapidement, parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de détours, beaucoup de détails qu'on ignore, votre carrière de pilote d'avion, pilote de chasse, et donc de spationaute, je crois qu'il faut dire spationaute lorsqu'on est français.
Spationaute, comme j'ai volé aux États-Unis, on s'appelle tous des astronautes.
Voilà, nous allons maintenant redescendre sur Terre puisque nous allons prendre des nouvelles de l'actualité métropolitaine avec Corinne Saint-Félix et son flash d'information hebdomadaire. Métropolez-vous, l'actu. Et la première information de la semaine est de grande importance puisque l'on a appris que l'État allait soutenir la construction de la 3e ligne de métro à Toulouse dans le cadre du plan de relance.
Oui, l'information a été confirmée par le ministre délégué au transport Jean-Baptiste Djebbari. Le projet de 3e ligne de métro à Toulouse fait donc partie du plan de relance présenté par l'État au même titre que le prolongement du RER parisien. Le plan de relance d'une dotation globale de 100 milliards d'euros prévoit de consacrer 11,5 milliards d'euros au transport. La troisième ligne de métro de Toulouse fera partie de ce financement, même si le montant n'a pas encore été dévoilé. Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse, avait demandé une participation de l'État de 200 000 euros pour un budget global de 2,7 milliards d'euros. En 2019, la Chambre régionale des comptes avait émis des doutes sur le financement de cette troisième ligne.
Autre information très importante pour la métropole toulousaine, le nouveau parc des expositions, le MIT, a ouvert ses portes jeudi dernier.
Oui, la 88e édition de la Foire de Toulouse en juin aurait dû donner le coup d'envoi du MIT, ce nouvel espace composé d'un centre de convention de 15 000 m², d'un hall d'expo de 40 000 m² et son immense esplanade de 25 000 m² située à au Saône, au nord de la ville rose. Mais la crise sanitaire obligeait les gestionnaires du nouveau parc des expositions de Toulouse à repousser à fin septembre la tenue de cet événement. Son ouverture au grand public a eu lieu jeudi dernier avec le salon du camping-car et du fourgon aménagé. Il a coûté ce MIT 311 millions d'euros. Les organisateurs et la préfecture travaillent maintenant au maintien de la foire internationale qui doit avoir lieu sur 10 jours à partir du 26 septembre.
Et nous terminons avec une nouvelle qui devrait beaucoup intéresser Philippe Perrin, notre invité du jour. Le vélo a toujours le vent en poupe dans la métropole toulousaine.
Oui, le vélo affiche une belle santé depuis le déconfinement à Toulouse. Certaines pistes cyclables ont été spécialement aménagées par la ville en supprimant souvent des voies pour automobiles. Celle de l'avenue Étienne Billière dans le quartier Saint-Cyprien, l'avenue Paul Séjourné aux Amis Donniers ou l'avenue de Grande-Bretagne ont connu une fréquentation trois fois plus élevé en juin dernier après le confinement qu'au mois de février et mars, juste avant le confinement. Ces chiffres sont donnés par la société GeoVélo qui édite l'application du même nom.
Et sachez qu'après un état des lieux fin juillet, la mairie de Toulouse a décidé de rendre définitif certains aménagements temporaires.
Et oui, et l'avenue Étienne Billière, un couloir réservé aux bus et aux vélos a été créé dans le sens Pas de Doigt Saint-Cyprien. Les voitures ne circulent plus que sur une voie. Dans l'autre sens, une vraie piste cyclable a vu le jour. En revanche, boulevard Silvio Trentin, au minime, une partie de la piste temporaire va être réaménagée près de la bifurcation vers l'avenue d'Elche. Des aménagements ont été faits sur les boulevards Trentin et de Suisse, l'avenue Jean Rieu, la route de Saint-Simon, Serventy à Blagnac ou Colomiers. Autant de dispositifs qui ont ensuite fait l'objet d'un retour d'expérience et qui vont être améliorés avec notamment un marquage au sol plus visible et le remplacement des séparateurs plastiques par des balisettes fixes. Au total, une dizaine de kilomètres ont ainsi été mis en service sur le territoire métropolitain.
Voilà, c'était le flash d'information hebdomadaire de Corinne Saint-Félix. Alors Philippe Perrin, évidemment, la dernière vous concerne au premier chef. Mais je pense que les deux autres ne doivent pas vous laisser indifférents, notamment la première, donc cette nouvelle pour la troisième ligne de métro toulousaine qui va pouvoir bénéficier du plan de relance.
Oui, je vous l'ai expliqué, mon engagement en politique, c'est un engagement écologique et le métro, c'est écolo parce que ça supprime les transports en voiture et parce que en plus, c'est un métro intelligent, c'est-à-dire qu'on va récupérer par exemple l'énergie au freinage. Un système beaucoup plus malin que les métros auparavant. Mais c'est surtout très malin parce que ce métro, en fait, poursuit le maillage de ce qu'on appelle aujourd'hui l'intermodalité, c'est-à-dire la capacité sur une ville d'utiliser plusieurs moyens de locomotion, de mobilité, de façon la plus rapide et la plus intelligente possible. Quelque part, c'est un peu ça, la nouvelle mobilité. C'est être capable d'avoir un maillage complet de façon à n'oublier aucun territoire et ensuite de pouvoir alterner les modes de locomotion en fonction de ses envies et de ses contraintes. Et le vélo faisant bien sûr partie de l'équation.
L'important aussi étant de les connecter entre eux, tous ces modes de déplacement.
C'est ça. Le tracé a été très fin, la troisième ligne de métro, qui dessert notamment toutes les gares, de façon à avoir des connexions avec le rail, qui dessert les territoires oubliés de Toulouse au préalable, et qui permet justement d'optimiser cette intermodalité.
Merci d'avoir partagé avec nos auditeurs cette réaction à l'actualité métropolitaine. Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet en reprenant le fil de cette émission consacrée, je le rappelle, aux nouvelles mobilités, aux pistes cyclables et aux relations piétons-cyclistes dans la métropole toulousaine.
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous.
Nous poursuivons ce numéro de rentrée de Métropole et vous avec celui qui en est l'invité, Philippe Perrin, conseiller municipal délégué à la mairie de Toulouse et vice-président Toulouse Métropole en charge du vélo et des nouvelles mobilités. Et je voudrais, pour commencer notre discussion, que l'on précise ce que recouvre l'expression « nouvelle mobilité ». Quelles sont-elles ces nouvelles mobilités ?
Il y a sûrement plusieurs définitions. Je peux vous donner ma vision des choses. Elles doivent être douces au sens où elles doivent être environnementales, préserver l'environnement. Donc, il ne faut pas de mobilité carbonée. Donc, on voit qu'on passe, par exemple, de moteurs thermiques à des moteurs électriques. Un simple scooter électrique, pour moi, fait partie déjà de la nouvelle mobilité parce qu'il est silencieux, parce qu'il respecte l'environnement. Faut-il encore qu'il soit chargé sur de l'électricité verte ? C'est un autre débat qu'on pourra avoir et sûrement pas des usines à charbon. Un autre facteur d'une mobilité, d'une nouvelle mobilité, c'est sûrement le digital, c'est-à-dire cette façon finalement d'utiliser toutes ces applications que vous connaissez. Vous parliez de GeoVélo, qui sont des façons de gagner du temps, de s'intégrer dans un parcours, de voyager intelligemment. Vous avez par exemple avec Tisséo cette capacité de voir arriver le bus Linéo. Vous êtes entre amis, vous prenez un dernier verre et vous savez à quel moment les quitter pour aller directement prendre votre bus. Et ça, c'est juste de l'intelligence mise en boîte électronique. Et puis peut-être que le dernier critère, ça va être un critère inclusif de partage. Peut-être qu'on n'a pas besoin d'une voiture par individu, on peut faire de l'autopartage, on peut faire du covoiturage. Ça s'exprime sous différentes formes. Il y a le vélo, il y a la trottinette, il y a des choses plus exotiques. Mais je ne pense pas qu'il faille, avec nouvelle mobilité, imaginer non plus des choses trop exotiques. Je ne pense pas qu'on soit prêt encore à avoir des taxis volants. On va rester, je pense, dans des choses simples qui ont été expérimentées dans beaucoup de villes d'Europe et qui font qu'au bout du compte, on a des villes plus apaisées, où il fait bon vivre, où on retrouve le goût de la promenade, le goût d'écouter le chant des oiseaux et le sens aussi d'avoir un air moins pollué. Donc les nouvelles mobilités, c'est peut-être aussi un certain mieux vivre.
Nouvelle mobilité, ça ne veut pas dire forcément nouveau moyen de locomotion, c'est plutôt nouvelle façon de se déplacer.
C'est un mélange. Voilà, le vélo, effectivement, n'a rien de très moderne, sauf dans sa version peut-être assistance électrique.
Et je pense que c'était bien de le préciser. Merci. Alors, il y a un projet mobilité de Toulouse Métropole, projet mobilité 2020, 2025, 2030, donc à assez long terme. 3,8 milliards sont investis sur 15 ans, vraiment au sens très large. Quand je parle de mobilité, c'est la troisième ligne de métro là-dedans, évidemment, qui en occupe une grande part. Est-ce qu'il y a un volet consacré aux nouvelles mobilités dans ces investissements ?
Alors, c'est principalement des pistes cyclables. Les pistes cyclables étant, vous le savez, partagées entre les trottinettes et les vélos. Pistes ou aménagements, itinéraires cyclables au sens large, parce qu'on peut avoir aussi des bandes cyclables. Avec notamment, donc, dans ce schéma directeur vélo de la grande agglomération toulousaine, un projet qui est de faire 370 km de réseau express, qu'on appelle le réseau express vélo, c'est-à-dire un itinéraire continu qui ira d'un bout à l'autre. On peut imaginer aller de Balma jusqu'à Blagnac et tout ça en un temps record et sur des itinéraires sécurisés, parce que l'idée, c'est de sécuriser. Donc, si vous voulez, c'est à travers ce réseau d'enlever toutes les discontinuités. Aujourd'hui, ce qui fait peur aux gens quand on prend le vélo, et à juste titre, c'est toutes les discontinuités qui fait qu'on est sur un itinéraire vélo, puis on le perd, puis on le retrouve, puis on le perd. Le deuxième axe très fort, ça va être, on en a parlé, l'intermodalité. C'est-à-dire que ce vélo, il ne va pas être tout seul dans un environnement. Il est dans un environnement qui existe avec les lignes de métro. Et il faut réfléchir pour connecter ce réseau vélo aux choses existantes. Connecter, c'est par exemple faire aussi des parcs à vélo, parce qu'il va falloir pouvoir se garer, et sous une forme sécurisée et pas chère. Alors ça existe aujourd'hui, vous avez des 500 places parking du Capitole pour 8 euros par an. Vous avez la même chose à Matabiau, près de 700 places. Donc ça existe, mais on va l'accélérer, notamment sur les parcs en ouvrage. On va mettre plus de parcs à vélo avec des recharges aussi. L'idée étant de bien évidemment de sécuriser ces vélos. Et la dernière chose, c'est de développer les services. Parce que pour qu'il y ait des vélos, il faut qu'il y ait autour de ça, donc, des services, c'est-à-dire des ateliers de réparation vélo, un véritable accompagnement, comme par exemple la maison du vélo, avec une capacité aussi de remettre les gens en selle, c'est-à-dire de les accompagner à travers des vélos écoles. Donc tout un travail d'accompagnement qui sera fait aussi notamment par Tisséo. Donc un beau projet en vue qui a été dessiné entre, si vous voulez, maintenant et l'horizon 2030.
Tout ça, ce sont les axes majeurs de ce qu'on appelle le plan vélo de Toulouse Métropole.
Tout à fait.
Piste cyclable, vous venez d'en parler. Aujourd'hui, il y a combien de kilomètres dans la métropole toulousaine ?
Alors, les plus connues sont peut-être les pistes vertes dans les parcs. On a près de 300 kilomètres entièrement dédiés, alors là, et sécurisés quelque part. Il y a les itinéraires vélo. Alors, c'est parfois des pistes, des fois des voies cyclables simples. Et là, c'est déjà énorme, 600 kilomètres. Et puis, il y a toutes les zones où on peut faire du vélo. On a le droit de faire du vélo, c'est-à-dire sans se faire peur. Puisque ce sont les zones à moins de 30 km/h, les zones qu'on appelle de rencontre entre les piétons, les vélos, les voitures. Et là, c'est assez énorme. dans les quartiers pavillonnaires, etc., à près de 800 km de cyclables. Et il y en a 370 à venir avec le réseau Express Vélo, plus la poursuite de l'aménagement dans les communes. Le réseau Express Vélo, d'ailleurs, il faut le rappeler, il sera à la fois radial, c'est-à-dire pour aller du centre toulousain vers les communes, il sera aussi périphérique, puisqu'il va faire, par exemple, l'Octogone, et il va ensuite aussi relier les communes entre elles.
Alors, une question qui va intéresser autant les cyclistes que les utilisateurs de la voiture, est-ce qu'il s'agira essentiellement de la construction de nouveaux parcours, de nouvelles pistes cyclables, ou de couloirs gagnés sur les routes existantes aux dépens des voitures ?
Un mélange d'un peu tout, puisque sur une ville de foi millénaire, il est difficile de pousser les murs. Et là, il faut faire preuve de concertation, d'intelligence. La ligne conductrice de ce mandat, donné par Jean-Luc Moudenc, c'est ce qu'on appelle une écologie pragmatique et concertée. C'est-à-dire qu'on avance avec l'envie des Toulousains d'avancer. Comme on l'a fait avec l'urbanisme tactique, on essaye des choses et on regarde si ça marche. Si ça ne marche pas, on peut le défaire. Et c'est vrai que faire une piste vélo, ça peut être, par exemple, prendre une partie de stationnement. Vous savez qu'il y a des quartiers où, en mettant en place le stationnement résident, finalement, on a gagné des places de stationnement. On en a même des fois libre, trop. Donc, ce n'est pas un problème, des fois, de prendre du stationnement quand on est passé en stationnement résident. Ça peut être, effectivement, comme on l'a fait récemment sur Saint-Simon, de mettre en place des voies dédiées bus plus vélo. Et derrière, vous voyez que l'idée n'est pas d'empêcher la voiture d'avancer, mais de donner une certaine priorité au transport en commun. Parce que être vert, gagner du temps, avoir une ville plus propre et plus apaisée dans laquelle on respire mieux, c'est aussi faire une belle place au transport en commun, notamment les bus, puisque vous savez que plus de la moitié de nos bus sont au GNV, et en fin de mandat, ils le seront tous. Et ces bus GNV sont d'ailleurs compatibles des biogaz, c'est-à-dire qu'on peut avoir avec cette flotte de bus une ville complètement propre et autonome, et sans aucun impact carbone. Donc donner là une place, comme on l'a fait à Saint-Simon, où vous le mentionniez tout à l'heure à Étienne Billière sur une seule voie, c'est à la fois favoriser le vélo et le transport en commun.
Il y a quand même une question que je me pose, je me fais peut-être un peu l'avocat du diable, mais lorsqu'on gagne sur les rues existantes, c'est-à-dire qu'on a des rues où les voitures peuvent être sur deux voies, et du jour au lendemain on se retrouve sur une voie, est-ce qu'on ne crée pas de nouveaux bouchons, des embouteillages plus importants et de plus longue durée en certains points à certaines heures, ce qui du coup va augmenter les gaz d'échappement et va être plutôt néfaste sur justement l'empreinte carbone, le réchauffement climatique. Alors qu'est-ce que vous répondez à ça ? Il y a pas mal de gens qui posent cette question.
C'est une vraie problématique, ça a été le cas à Paris très longtemps, où finalement on avait des voies bus, mais pas partout. Donc finalement, tout le monde se retrouvait dans le trafic, des fois même les bus et les taxis avec les utilisateurs de leur propre voiture. Si vous prenez une rue comme Étienne Billière, à l'évidence, quand on arrive au croisement, on était au final sur une seule voie. Donc on avait de toute façon un goulet d'étranglement, on n'a pas créé un autre goulet d'étranglement. Donc il y a des endroits où on est assez serein sur l'impact. Et puis de toute façon, au bout d'un moment, les choses se régulent. C'est-à-dire que la contrainte, quand elle existe, les gens travaillent à iso-contrainte, à même contrainte. C'est-à-dire que c'est assez malheureux, mais l'automobiliste va réguler son parcours en fonction des contraintes qu'il rencontrera. Et s'il rencontre des contraintes, il prendra un autre mode de transport, il passera par ailleurs, ou il prendra un autre mode de transport, et on espère donc qu'il prendra ou le transport en commun ou le vélo.
Donc les choses devraient se régler d'elles-mêmes dans le temps. En tout cas, c'est le pari que vous faites.
Comme elles se sont réglées de façon très douce dans le dernier mandat, c'est-à-dire qu'on ne le réalise pas, mais il y a déjà beaucoup moins de voitures sans que ça ait été imposé. Il n'y a pas dans notre approche une approche dogmatique anti-voiture du tout. L'idée, c'est de laisser le choix aux gens et de travailler à iso-contrainte. Et vous pouvez choisir d'avoir la contrainte qui restera la même de la voiture ou de basculer sur d'autres modes plus verts et peut-être meilleurs pour la santé.
Alors, on a parlé du plan vélo. Il y a d'autres documents qui existent. Il y a un guide pratique qui s'appelle le vélo au quotidien. Il y a un document qui s'appelle le double sens cyclable mode d'emploi qu'on trouve sur le site de Toulouse Métropole. Peut-être un mot sur ces deux documents qu'il est important de connaître, qu'on soit cycliste ou automobiliste.
Pas le guide du vélo, oui, c'est une façon de rappeler les lieux importants et puis quelques chiffres qui font la différence. Un chiffre, moi, que j'aime bien, c'est que finalement, sur Toulouse, deux tiers des transports en voiture se font sur des trajets de 2 à 3 km. Or, il a été prouvé par l'ADEME que sur des distances de moins de 5 km, le vélo est toujours le moyen le plus rapide, le plus fiable, à l'évidence le meilleur pour la planète et pour la santé. Donc, c'est vrai que sur tous ces trajets de 2 à 3 km, il y a une vraie question à se poser et le guide est là pour le rappeler. Le guide est là pour donner de bonnes adresses, notamment la maison du vélo en face de Matabio, pour être accompagné dans sa démarche si on a envie de se remettre au vélo. Et puis, vous parliez du rappel finalement des règles du code de la route. C'est vrai que le monde a beaucoup changé. Depuis par exemple 2008, depuis qu'on a mis en place ces voies à double sens, on s'aperçoit que même aujourd'hui, les gens sont encore étonnés. J'ai un bon ami qui me disait « Mais je réalise à peine maintenant qu'en sortant de mon garage, je dois regarder des deux côtés, à gauche et à droite. » Et c'est vrai qu'il faut réapprendre aux enfants, quand on traverse une rue, à regarder à gauche et à droite. Il faut, quand on est automobiliste et quand on rentre dans une rue à double sens, comprendre que le petit panneau bleu avec les deux flèches qui montent et qui descendent, ça veut dire que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un en face de vous qui est sur un vélo. Vous devez, dans ce cas-là, d'ailleurs, être à 20 km/h en général. Et que 20 km/h, c'est ce qui permet de ne pas créer d'accident mortel si vous étiez amené à rencontrer de façon brutale un cycliste. Et à l'inverse, pour les cyclistes, la rue à double sens, c'est s'apercevoir quand on voit un panneau à sens interdit que s'il n'y a rien marqué et uniquement sens interdit, on n'y va pas. C'est-à-dire que le vélo n'a pas non plus tous les droits. Il faut qu'il y ait marqué sens interdit, sauf cycliste. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on s'aperçoit qu'il y a en fait des tas de règles du jeu qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas voulu travailler, qu'on ne nous a finalement pas enseigné à l'école et qu'il faut réapprendre. Alors ça va être notre défi dans la semaine européenne de la mobilité entre le 16 et 22 septembre. On voudrait refaire un petit peu, avoir une approche didactique et refaire un petit peu donc, de rappel des règles du jeu pour que tout le monde puisse vivre en harmonie. Alors les règles du jeu, les gens me disent souvent les cyclistes grillent les feux rouges, pas tous. Bien regarder pour les plus anciens qui ne font pas de vélo, sur les feux rouges, vous avez des cédés de passage qui leur donnent le droit de passer. Mais ce n'est pas un droit de passer sans regarder et donner priorité aux voitures ou aux piétons, par exemple, parce que le vélo va souvent être inquiet de la voiture, mais des fois peu respectueux du piéton qui a, lui, le feu vert. Donc, un cédé de passage n'est pas un droit à écraser le piéton. Et donc, en remettant toutes les règles du jeu en place, on va rappeler pendant la semaine de la mobilité que derrière, si les règles ne sont pas respectées, on sera amené à les verbaliser. Si vous êtes vélo sur un trottoir, vous encourez une amende de 135 €, et je peux vous assurer que les consignes seront données pour que la règle soit respectée. Même chose si vous êtes automobiliste et que vous vous garez sur une bande cyclable, eh bien c'est extrêmement grave parce que le dernier mort à Toulouse, route de l'Onaguet, c'était un professeur de maths au petit matin qui avait décidé d'aller travailler en vélo et qui s'est fait renversé parce que la voie cyclable était occupée par un véhicule, il a dû faire un détour et il s'est fait happer par un véhicule. Donc on parle de choses très sérieuses parce qu'on parle de sécurité. Et moi qui viens de la tradition du transport mais de l'aviation, je viens avec ma tradition de la sécurité et je compte bien imposer donc les règles du jeu, les rappeler et ensuite les imposer.
Vous avez évoqué tout à l'heure la Maison du Vélo, association bien connue à Toulouse. Il y en a d'autres comme Deux Pieds Deux Roues. Il y a une association qui s'appelle 60 millions de piétons, me disiez-vous tout à l'heure avant l'émission. Oui. Bon, je suppose qu'elles sont intégrées dans toutes vos réflexions, qu'il y a des points réguliers avec ces structures. Alors, le sujet qui fâche, la relation entre les cyclistes et les autres usagers, notamment les piétons, quelle est la situation aujourd'hui? Est-ce qu'elle est vraiment aussi tendue qu'on le dit?
Oui, à titre personnel, je vois beaucoup de heurts, beaucoup de tensions, qui lient encore une fois au fait que les gens ne connaissent pas les règles du jeu. Alors, c'est vrai que, par exemple, si un vélo pense que la voiture va rouler à 20 km/h et que la voiture déboule à 50 km/h là où c'était 20, ben vous mettez le vélo en danger et il est normal que le vélo vous le reproche. Quand vous doublez un cycliste, vous devez laisser un mètre d'espace entre le cycliste et vous. Si vous ne le respectez pas, ben vous êtes un mauvais conducteur. Donc, je crois qu'il y a des règles importantes à rappeler.
Ou à faire connaître parfois, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas.
Et simplement peut-être à faire connaître, je suis tout à fait d'accord. C'est que la mobilité vélo aujourd'hui, la part de modal, c'est peut-être en France 3%. Alors, dans le centre-ville de Toulouse, ça va être peut-être 10% comme en Allemagne, mais 10%, c'est le cas dans toute l'Allemagne. Aux Pays-Bas, on va monter à 20, des fois 30%. Donc, on a beaucoup à faire, on a beaucoup à gagner. Et ce serait dommage de commencer dans un climat tendu. Toulouse est une ville de fraternité, donc moi, je voudrais que tout ça se passe dans la fraternité et la concertation. C'est vraiment notre approche, c'est d'avoir une approche dans les quartiers de concertation pour mettre en place des itinéraires, des logiques, et finalement que tout le monde y trouve son compte.
Donc il y aura des règles, elles vont être rappelées. On va, s'il faut, les apprendre à ceux qui ne les connaissent
c'est
pas.
Ça.
Mais il faut que les gens sachent aussi qu'ils pourront être verbalisés s'ils ne les respectent pas et que nul n'est censé ignorer la loi. Rappelons-le aussi.
Oui, oui. Mais il ne s'agit pas de faire une chasse
aux
euros. Non, mais encore une fois, quand on pense à la mort tragique de ce professeur qui partait le matin en vélo, je crois qu'il faut simplement revenir au bon sens. Citer la Maison du Vélo, c'est une très belle organisation qui vient de l'économie solidaire et sociale et qui fait un travail formidable, notamment d'éducation. Je crois que c'est un des centres de formation nationale qui forme le plus de gens aujourd'hui. Et puis de Pied de Roue, qui fait un vrai travail d'ingénierie, de reporting, enfin, excusez-moi de parler anglais, mais donc qui vient signaler tous les incidents.
Qui vous fait des comptes rendus.
Et qui nous fait des comptes rendus, avec qui aujourd'hui on a des réunions trimestrielles. On peut imaginer qu'on fasse des réunions plus fréquentes.
Ce qui permet de voir les causes principales d'accidents ou d'incidents, et puis les comportements les plus déviants qui sont relevés.
Puis les problèmes sur voirie, c'est-à-dire d'être très pratique, pragmatique.
Oui, sur l'entretien aussi.
Sur l'entretien.
Sur l'endroit où la signalisation est déficiente,
voilà,
éventuellement.
Voilà.
Alors, une dernière question que, là encore, beaucoup d'automobilistes peuvent se poser. Il y en a qui craignent que la voiture soit un jour exclue définitivement du centre de Toulouse. Est-ce que cette crainte est fondée ?
Absolument pas. Encore une fois, on a une approche qui n'est pas du tout dogmatique. Vous avez des gens qui ne peuvent pas faire sans la voiture. Du fait de l'âge, du fait de leur travail, d'une certaine mobilité réduite. Et d'ailleurs, il faut rappeler qu'on a fait beaucoup de choses qui ne sont aujourd'hui pas connues. Vous avez par exemple le parking résident, mais vous avez la même chose que le parking résident pour les artisans. Les artisans peuvent prendre aujourd'hui un abonnement, mais peu le savent, qui leur permet de se garer à des tarifs très peu chers dans la ville de Toulouse pour justement faire leurs travaux. Et donc, il n'y a aucune volonté de chasser la voiture. Il y a un effet malheureux de la voiture, c'est que si vous arriviez à libérer les contraintes de la voiture, vous faites des parkings, plein de parkings relais en bout de métro, etc., et soudain, vous avez une circulation très fluide. Il y aura toujours un malin pour dire, puisque c'est fluide, moi, je viendrai en voiture à Toulouse. Et donc, je partirai de Saint-Lys et je vais habiter là-bas parce que c'est beaucoup moins cher, j'aurai une plus belle maison, mais je viendrai quand même en voiture. C'est tout le problème, quelque part, de la voiture, c'est qu'il faut mettre des contraintes. Et si vous voulez, les contraintes, elles sont déjà mises en place. Vous les vivez aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elles émanent d'un document qui est très intéressant, qu'on trouve sur Internet, qui s'appelle le plan urbain toulousain, et qui explique qu'en voiture, vous avez le droit et vous venez naturellement en ville parce que vous êtes résident, parce que vous voulez aller voir des commerces, parce que vous avez des formalités administratives, et ensuite vous vous retirez facilement de la ville. Mais le temps est fini où on traversait Toulouse de part en part, en passant par les petites rues, en faisant du bruit et en dérangeant tout le monde. Et il y a d'autres moyens de traverser, d'éviter la ville aujourd'hui.
Eh bien merci, il est temps de conclure cette émission. Même si le sujet des nouvelles mobilités et du vélo en ville n'est pas prêt d'être clos, nous en reparlerons forcément dans cette émission. Je rappelle la Semaine européenne de la mobilité à Toulouse du 16 au 22 septembre. Pour ceux qui voudraient en savoir plus sur le projet mobilité et le plan vélo Toulouse Métropole, je signale que vous pouvez y avoir accès dans le détail en consultant le site www.toulouse-métropole.fr à la catégorie mission rubrique déplacement. Vous pourrez également y télécharger le guide pratique, le vélo quotidien et le document Le double sens cyclable mode d'emploi. Ce numéro était animé par Éric Dupri à la technique Christophe Aubry. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour un autre numéro de Métropolez-vous. Mais d'ici là, n'oubliez pas, métropolez-vous bien.
Métropolez-vous. Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.